Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue aux amateurs de sport. J'allais dire bonsoir les sportifs. Non, on n'est pas rendu là, c'est à compter de 20h30. Bonsoir les sportifs. Les amateurs de sport en ce vendredi 12 juillet. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée après cette soirée de tempête hier. Merci pour vos nombreux commentaires sur la messagerie texte 98985. Je pense que collectivement, on était capable de se donner un coup de main. Évidemment, la salle de nouvelles Cogeco a fait tout un boulot. Émission fort chargée aujourd'hui. On aura la chance d'avoir avec nous Bruno Eppel. Pourquoi? Parce que les Alouettes vont affronter demain le Rouge et Noir d'Ottawa. Est-ce que le dernier match, la victoire face aux Tiger Cats d'Hamilton, c'est écran de fumée où on est capable de poursuivre et de remporter un autre duel? Eh bien, on posera nos questions à Bruno Eppel. On parlera également du Grand Prix d'Angleterre. Vous savez que plusieurs sorties de piste lors des périodes d'essais libres. Mais, encore une fois, les Mercedes ont été dominants. Et notre collaborateur F1, Alex Taglieni, sera avec nous et ajoutera sa saveur à lui. Et si vous pensez qu'il aime juste le NASCAR, détrompez-vous. Vous écouterez Alex Taglieni, vous allez comprendre le tout. De bonnes nouvelles au sujet de Nacho Piatti. Possiblement retour la semaine prochaine. Ça, c'est une excellente nouvelle, évidemment, pour l'Impact. Vincent Destouches sera avec nous. On parlera de ce duel également demain face au Toronto FC. Rivalité naturelle entre Montréal et Toronto. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter le site de la MLS. Allez voir, on a produit une vidéo sur cette rivalité Montréal-Toronto. Si vous écoutez ça et que vous ne détestez pas le Toronto FC par la suite et vice-versa si vous êtes de Toronto, eh bien, vous n'avez pas de cœur. Vous n'êtes pas vivant, c'est sûr et certain. Fort intéressant, ce vidéo. Mais pour l'instant, Rafael Nadal a subi la défaite face à qui? Le roi Roger Federer, qui ira en grande finale faire face à Novak Djokovic. On en parle avec Hélène Pelletier, qui est avec nous. Salut, Hélène!
Oui, bonsoir, Jérémy.
Hélène, on se questionnait. On se disait, bon, Nadal aura peut-être l'ascendant sur Roger Federer, mais finalement, le roi Roger a régné sur Rafael Nadal.
Ah, mon Dieu, ce qu'il a été beau aujourd'hui, Roger Federer. Ça a commencé sur les chapeaux de roue pour garder le thème de ton émission. Il a été... Les deux sont sortis des blocs tellement rapidement dans ce match-là. C'était extraordinaire de voir Roger Federer survoler le terrain et de ne jamais glisser sur cette surface qui est tellement glissante. Alors, ça a été vraiment un premier set où il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités entre les deux parce que les deux servaient quand même assez bien. Seulement une balle de bris. C'est Federer qui l'a eu à 4-3, n'en a pas profité. Puis au bris d'égalité, même si Rafael Nadal menait dès le départ, Federer avec d'extraordinaires services et surtout une qualité de retour de service aujourd'hui, il a réussi à coiffer Nadal. Mais moi, j'ai eu peur parce que évidemment, quand tu es rendu à presque 38 ans, et que tu as joué pendant au-delà de 20 ans, ce qui est difficile à garder lorsque la cadence est tellement, tellement élevée à l'intérieur d'un match que tout va extrêmement vite, une opportunité se façonne en une fraction de seconde, c'est de garder ce niveau d'intensité. Et malheureusement, Federer a dit qu'il a eu un peu de difficulté avec le soleil qui baissait, qui pénétrait à l'intérieur du terrain, il y avait le jeu de l'ombre et de la lumière sur le terrain, enfin bref, il a mal servi dans cette manche-là qu'il perd 6-1. Et après ça, ben, c'était de voir si Nadal, lui, allait garder un bon niveau, parce que ça lui faisait, Rafael Nadal, deux sets de très grande qualité. Il avait juste perdu au bris d'égalité par quelques points la première manche. Puis au deuxième set, il avait complètement dominé avec deux bris de service pour mener 3-1 et 5-1 et gagner la manche 6-1. Mais par la suite, on a eu quelques balles de bris ici et là. Rafael Nadal a été brisé en premier début de troisième manche. Il a eu trois balles de bris, n'en a pas profité. Federer file avec une avance de 2-7-1. Et évidemment, encore une fois, Federer avec des élans exceptionnels. Tu sais, c'est qu'il a une palette qui est très, très complète sur herbe, Jérémy. Ça fait une immense différence. Nadal a commencé à avoir un tout petit peu de difficulté à garder la balle en jeu et à garder une longueur de balle. Tu te souviens, durant la quinzaine, on avait dit de Rafael Nadal qu'il était tellement puissant. Toutes les balles, il les punissait, il frappait profond, il se donnait des toutes petites cibles sur le terrain. Mais aujourd'hui, à partir du début de la troisième manche, on a senti que les choses ont changé un tout petit peu. Et à la toute fin, ben, on a eu une fin extraordinaire, alors que Nadal aurait pu recoller à 5-5. Et finalement, des balles de match sauvées par Nadal avec une telle fermeté, une telle hargne, une telle précision. Et finalement, Roger Federer arrive en conférence de presse, dit « Ouf, je suis encore un peu étourdi et je suis bien content que ce match-là soit terminé parce qu'on aurait pu aller jusqu'à 12-12 dans le cinquième set. » Alors, vraiment une performance. Honnêtement, là, faire ça à presque 38 ans, Jérémy, ce que Roger Federer a réussi aujourd'hui avec une grande intensité, de rester offensif, de mieux jouer les points importants que Rafael Nadal, c'est un haut fait d'armes dans sa carrière et ce sont ses propres paroles que je te donne là.
Federer, évidemment, la maturité a fait toute la différence, donc l'emporte face à Nadal en 4 manches de 7-6, 1-6, 6-3 et 6-4 en 4-7 et va faire face à Djokovic. Avant qu'on parle de la demi-finale du côté de Djokovic, quand même, il est en route vers un 9e titre potentiel du côté de Wimbledon, un 25e tournoi Grand Chelem, victoire sur un 25e tournoi Grand Chelem, 12e finale à Wimbledon. Écoute, il a l'expérience.
Il a beaucoup, beaucoup d'expérience, puis évidemment, tout fonctionne bien pour lui sur cette surface. Son service prend beaucoup plus d'ampleur, première et deuxième balle. C'est monté au filet, on voit toute la facilité qu'il a à choisir la bonne volée, plus souvent qu'autrement, et évidemment, peut changer le rythme, dépendamment de l'adversaire devant, avec un revers appuyé, c'est-à-dire soit à plat, soit brossé, ou un revers coupé. Alors, il peut utiliser les deux pour changer le rythme. Ça fait de lui un joueur tellement complet. Et en plus, lui nous a parlé d'un travail qu'il a fait pendant plusieurs années et que même en cette année 2019, sa belle demi-finale à Roland-Garros, c'était très révélateur. Il enchaîne avec un titre sur gazon à Halle et là, joue du tennis absolument remarquable, même s'il était nerveux, on l'a vu, en tout début de tournoi. Alors, c'est vraiment une performance, c'est presque qu'un film d'Hollywood. Tu sais, c'est hors de l'ordinaire. On n'a pas seulement les trois meilleurs qui gagnent 14 des 16 derniers tournois du Grand Chelem à Wimbledon, mais on a aussi des joueurs qui sont créatifs, qui sont aussi au sommet de leur forme, alors qu'ils sont tous au-delà de la trentaine. Honnêtement, c'est impressionnant.
Impressionnant. Et que dire de Novak Djokovic, qui lui aussi passe en finale du côté de Wimbledon, 6e finale. Lui qui a quand même une pas pire fiche en finale, 4 victoires, 1 défaite, a gagné face à Roberto Bautista Agut en 4 manches de 6-2, 4-6, 6-3 et 6-2. Je disais sur les réseaux sociaux, je pense que Djokovic a voulu rendre hommage à Roberto qui a joué quand même tout un duel.
Oui, en fait, tu sais, là, c'était tout le contraire du match entre Rafael Nadal et, bien sûr, Rafael Nadal et Roger Federer. Eux, ils ont commencé très, très fort, mais Bautista Agut est complètement passé à côté de son début de match. Et donc, dès le départ, on le sent ultra nerveux. Écoute, pauvre homme, lui, il est limité dans sa panoplie de coups, mais ce qu'il fait, il le fait bien normalement. Mais là, il ratait énormément. Il était complètement nerveux. C'est un grand moment. Il reste littéralement juste 4 joueurs dans le vestiaire, là, tu sais. Et puis, là, c'est le décorum de Wimbledon. C'est la grande marche pour se rendre sur le central et évidemment, le protocole qui est immense. Tout est fort impressionnant. Puis, soudainement, il y a 2 Espagnols en demi-finale à Wimbledon. Déjà, ça, c'est un haut fait d'armes. Et Agut est complètement nerveux, perd son service à sa première partie. Le set lui file entre les doigts. Un autre bris de service à 6-2. Mais dès le départ de la deuxième manche, bizarrement, encore une fois, son niveau par moment durant la quinzaine de Novak Djokovic, on n'en parle pas beaucoup, mais on se souviendra de ce match devant Hubert Hurkacz où les 2 premiers sets, il a arraché la première manche par un fil et il a perdu le 2e set contre Hurkacz, puis on se sentait essoufflé. Ben, un peu la même chose, son niveau baisse complètement à la 2e manche, donc Agut en profite pour retrouver la qualité de son coup droit croisé, des balles appuyées, de belles courses, un jeu de jambes fort discipliné pour gagner la 2e manche 6-4. Et par la suite, ben, tous les moments importants ont quand même appartenu à Novak Djokovic. Mais tu sais, il y a eu des moments vraiment très chauds. Il s'est bagarré comme un diable dans l'eau bénite. Il a vraiment donné une performance au-delà des attentes, surtout après ce premier set qui était vraiment crapoteux. Alors, bravo à Bautista Agut. Il en sort grandi. Il est vraiment extrêmement heureux malgré tout. Super heureux, évidemment, de son Wimbledon, parce que tu sais qu'il devait fêter ces jours-ci son enterrement de vie de garçon, hein? C'était prévu avec ses copains à Ibiza. On avait loué une maison de mercredi à dimanche prochain. matin. Les amis ont fêté tout seuls le mercredi et ils sont venus le voir aujourd'hui dans sa loge et ils ont pris un avion pour venir jusqu'à Londres pour voir leur ami. Et demain, ils vont quitter ensemble pour aller fêter parce qu'ils se marient dans quelques semaines, Batista Agut. Alors, honnêtement, il vit des moments, les plus beaux moments de sa vie, fort probablement, après avoir perdu sa maman l'année dernière. Et il avait vraiment connu de grandes difficultés à rester motivé sur le circuit. Alors, il y en a beaucoup de joueurs comme ça. Il a déjà atteint la 13e place mondiale, Batista Agut. Il me fait penser un petit peu, c'est dans le même registre que David Ferrer. Tu sais, des gars qui s'entraînent fort, qui disent pas un mot plus haut que l'autre, qui travaillent, toute leur vie est basée sur le travail, sur le respect, et puis atteignent une demi-finale avec ce genre de joueur-là et genre de coup qu'il possède sans être puissant. Il fait tout à peu près bien. C'est vraiment un haut fait d'armes.
Évidemment, Hélène, ça sera toute une finale entre Federer et Djokovic. Là, hier, les parieurs t'ont écouté. Peut-être que certains ont été déçus parce que tu avais favorisé Nadal. Qui favorises-tu dans cette finale entre Federer et Djokovic?
Je n'ose plus me prononcer. Ben écoute, disons ceci, OK? Parce qu'évidemment, ça joue sur le terrain. Puis c'est pas de ma faute là, si Federer a mis sa cape de Superman aujourd'hui. Là.
Non,
c'était pas
ça.
Prévu, cela. Là. Non, blague à part, Djokovic a battu Federer 25 fois en carrière. Et Federer a battu Djokovic 22 fois, donc 48e affrontement entre les deux. Ils ont joué trois fois à Wimbledon, 2015, 2014, 2012, et Federer n'a gagné qu'une fois, c'était en 2012. Alors, est-ce que Djokovic, on a toujours l'impression qu'il a une cinquième vitesse ou le turbo ou je sais pas quelle vitesse qu'on pourrait appeler ça, mais qu'il lui reste toujours quelque chose de supérieur quand les moments deviennent un peu chauds puis qu'on le sent un peu essoufflé, il réussit toujours à faire des choses formidables. Federer, s'il joue les points importants comme il les a joués aujourd'hui, c'est lui qui va gagner. Tiens, ce serait vraiment extraordinaire de voir Federer remporter un 9e titre à Wimbledon, n'est-ce pas?
Alors, définitivement, on verra le tout dimanche, ça se passera du côté de Wimbledon, en rappelant que la finale chez les dames, Serena Williams va affronter Simona Halep. Hélène, avant qu'on se quitte, juste savoir une chose, tu l'as joué le tournoi de Wimbledon. Est-ce que le protocole est demeuré le même au fil des années? Est-ce qu'on s'est démocratisé un peu ou on est resté aussi guingué qu'à l'époque où tu l'as joué le tournoi?
Ben, je te dirais que les progrès se sont faits du côté des installations à Wimbledon. Mais le protocole et la hiérarchie en Angleterre, c'est tellement, tellement important. Tu sais, rapidement, j'écoutais un reportage de la BBC, puis apparemment, l'Angleterre, dans toute son histoire, a essayé de conquérir à peu près tous les pays de la planète, excepté 4 ou 5. Alors, eux, ils font les choses là dans les détails, c'est extraordinaire. Malheureusement, je n'ai jamais goûté vraiment à ce protocole. J'étais supposée y goûter en 1985, alors que, avec ma partenaire, on jouait en double devant Chris Evert et Joe Dury, qui était une top 10, qui était la meilleure Britannique du temps, qui était celle qui pouvait peut-être leur apporter un titre Grand Chelem à Wimbledon. Et finalement, il y avait eu de la pluie, et plutôt que d'être sur le central, notre match avait été reporté sur le terrain numéro 1. Donc, tout ce qui se passe dans le grand building et la grande marche dans le corridor. J'ai pas vécu ça, malheureusement. J'ai une photo de moi, par contre, et le terrain est vide en arrière, là, mais je sais pas si ça compte, ça.
Ça
avec
compte.
Mon beau grand sourire. Ben oui, ça compte. J'étais là. Non, mais honnêtement, c'est spectaculaire. De la façon qu'ils ont réussi à faire un heureux mélange de la tradition et de la modernité de ces temps. Puis ils n'arrêtent pas de grandir. Ils ont acheté le terrain de golf qui était en face sur Church Road. Ils vont continuer de développer d'autres terrains, des terrains intérieurs, des terrains extérieurs, d'autres surfaces de jeu. Honnêtement, Jérémy, c'est le nec le plus ultra.
Est-ce que tu as le droit aux fraises de Wimbledon? Est-ce que tu lui as goûté?
Ce sont les meilleurs.
Ah, bon, ben voilà.
Écoute, dans mon temps, là, je suis comme une petite vieille, mais quand même, c'est la réalité, le temps passe. On nous donnait la cuillère, et puis elles sont choisies, hein, elles sont triées, elles passent des tests. Tu verras pas une fraise un peu blanche sur le top ou un peu fanée ou un peu poquée. Non, elles sont toutes parfaites, toutes rouges, toutes juteuses et sucrées en même temps. Elles passent des tests, comme je te dis, c'est pas n'importe quelle fraise qui se retrouve dans ton petit casseau. Et si tu prends de la crème, dans les années 80, la crème était tellement épaisse que la cuillère cuillère tenait debout dans le milieu.
Ah, ben voilà, c'est très bon avant un match. Ça place tout ça, là, puis t'es capable d'offrir une bonne performance. Hélène Pelletier, je te dis merci de nous avoir raconté cette histoire, c'est fort intéressant. Et surtout, merci. Je te souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, Hélène.
Merci beaucoup, bye-bye.
Merci énormément. Avant d'aller à la pause, je prends juste quelques instants pour vous mentionner qu'aujourd'hui, vous savez qu'hier, en fait, le Canadien a fait des signatures, deux, Arturi Lehkonen et Joel Armia, les deux contrats de 2 ans. Dans le cas de Armia, c'est 2,6 millions de dollars par saison, total de 5,2 sur 2 ans. Dans le cas de Lehkonen, 2 ans, 4,8 millions de dollars. Donc, annuellement, ça donne 2,4 sur la masse salariale. Mais aujourd'hui, Arturi Lehkonen et Joel Armia étaient en point de presse, en fait, conférence téléphonique. Et dans le cas d'Arturi Lehkonen, il a été assez clair. Il a dit... À 24 ans, il a accumulé 31 points, donc c'est 11 buts seulement. Il a dit « Je n'étais pas très heureux de ma production avec mon nombre de buts à la fin de la saison, donc je sais que je peux faire beaucoup mieux à ce niveau. » Il faut mentionner que Lehkonen n'a pas marqué dans les 29 derniers matchs. Donc ça peut être un peu compliqué lorsque tu es attaquant. Tu veux améliorer ta fiche. Mais quand même, au total, il a connu sa meilleure production offensivement avec un total de 31 points. Lehkonen, à sa première année, avait marqué quand même 18 buts, 10 passes pour 28 points. Deuxième année, 12 buts, 9 passes pour 21 points. Et cette année, 11 buts et 20 passes pour un grand total de 31 points. Voilà, du côté d'Arturi Lehkonen. Je prends quelques instants également pour vous dire que Jack Hughes a signé son premier contrat dans la Ligue nationale de hockey. Premier choix, dernier repêchage, donc Jack Hughes avec les Devils New Jersey. On s'en tient un contrat recrue de 3 saisons à Jack Hughes, qu'ils ont sélectionné au premier rang lors du dernier repêchage. On s'arrête quelques instants. Des bonnes nouvelles du côté de Nacho Piatti. Possiblement, la semaine prochaine, un retour. Là, ça commence à être intéressant. L'Impact affronte en plus demain le Toronto FC, une rivalité. Disons que c'est demain qu'on aurait eu besoin de Nacho Piatti. Au retour, Vincent Destouches est avec nous.